ce 25 mars, c'est évidemment l'Annonciation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Annonciation du Seigneur. Autrefois, c'était l'Annonciation faite à Marie, ça revient au même, c'est la même chose. Mais une insistance sur ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, le Seigneur, qui s'incarne aujourd'hui, et dans 9 mois, naîtra aux yeux de Marie et de son père putatif, son père adoptif, Joseph, dont on a parlé l'autre jour. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est aujourd'hui la 235e émission de suite, pour ainsi dire, depuis le 1er mai de l'an dernier. 235e. C'est aussi la fête aujourd'hui de quelqu'un que j'aime beaucoup. Le premier saint canonisé. Ben oui, le premier saint canonisé, c'est, vous l'avez deviné, c'est le bon larron sur la croix. On lui a donné le nom de Dismas, qui est peut-être son vrai nom, D-I-S-M-A-S. En croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est donc le premier saint canonisé, dans un sens. C'est pas un long procès. C'est aussi la fête d'Isaac, le fils d'Abraham. Oui, saint Isaac, fils d'Abraham, patriarche du peuple juif, patriarche des grandes religions, les trois grandes religions. Donc Isaac, son fils. C'est une histoire très intéressante dans l'Ancien Testament, hein, quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, comme on faisait souvent dans les religions païennes, les gens en du pouvoir sacrifiaient leur fils aîné à un dieu qui pouvait être Moloch ou d'autres dieux abominables. Et dans la Bible, on nous raconte que Dieu, le vrai Dieu, demande la même chose. Et Abraham obéit. C'est la coutume générale chez les peuples de cette époque. Et au moment où il va sacrifier son fils dans l'obéissance la plus totale, Dieu intervient par un ange et il lui montre bien que ce ne sont pas des sacrifices humains. Non, jamais. C'est la fin des sacrifices humains. On en retrouve un peu dans la Bible chez les Juifs, oh, à peine. Et le peuple juif se détache des sacrifices humains qui sont pratiqués par les autres peuples autour de lui. Et c'est une des grandes révélations, ça, de l'Ancien Testament. L'abolition des sacrifices humains. Et Dieu tolère pendant un certain temps les sacrifices d'animaux. Mais il vient à dire quelques siècles plus tard, ce ne sont pas des sacrifices que je veux. C'est la conversion du cœur. C'est l'amour. Et le message de l'amour dans l'Ancien Testament jaillit petit à petit jusqu'à exploser dans le cœur de Jésus, dont on fête aujourd'hui l'incarnation. Pas la naissance, mais l'incarnation. 9 mois avant sa naissance. C'est aussi la fête du fameux grand prêtre de l'Ancien Testament, dont on mentionnait toujours le nom dans les anciennes messes en latin, Melchisédek. Bien oui, Melchisédek, je crois qu'il est encore dans le canon numéro 1 des messes actuelles. Je ne suis pas sûr. C'est la fête d'un abbé de monastère aussi, Procope. Il y a aussi cet enfant très discutable. On disait qu'il avait été martyrisé par des juifs au 12e siècle, mais je n'en crois rien. Richard de Pontoise, je n'aime pas ce genre d'histoire. Et puis, il y a plusieurs autres saints. Passons au bon larron avant de passer à l'Annonciation. J'aurais des choses à vous dire qui sont très belles, il me semble. Les évangélistes nous disent, n'est-ce pas, qu'il y avait deux voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus-Christ sur le calvaire. Nous approchons de la semaine sainte. Hein? L'un était à sa droite, l'autre à sa gauche. Saint Marc, dans le chapitre 15 au verset 28, remarque à ce sujet que c'était une sorte d'accomplissement de ce qu'avait écrit le prophète Isaïe, hein? au chapitre 53, fameux chapitre 53 d'Isaïe qui est très beau, il sera mis au nombre des méchants. Être mis au nombre des méchants, ça veut dire être mis parmi les méchants, être sacrifié, être tué parmi les méchants. Donc il avait deux méchants de chaque côté, dans un sens, deux voleurs. Oh, bien des voleurs qui ne sont pas si méchants que ça, des petits voleurs. Alors le spectacle absolument inouï, si on peut dire, de ce sauveur de l'humanité qui donne de sa mort à tout l'univers, n'est-ce pas? Ça touche indifféremment certains spectateurs, mais ça les touche d'autres beaucoup, beaucoup. Il y a des passants, n'est-ce pas, qui adressent à Jésus au moment de sa mort des blasphèmes. Il y a les princes des prêtres, les docteurs de la loi qui se moquent de lui. Les gens avertis, quoi. Les gens qui pensent tout savoir, mais qui n'ont pas de cœur. Les criminels, eux, qui souffrent à ses côtés. L'insulte aussi, en lui reprochant de ne pas pouvoir se sauver, et les sauver avec lui. Mais Saint Luc nous rappelle, au chapitre 23, et ça donne à cet épisode-là tout un développement absolument remarquable, mais Saint Luc écrit qu'à un moment donné, l'un d'entre eux, et la tradition, je vous l'ai dit, lui a donné le nom de Dismas, eh bien, il se trouve changé subitement. Son cœur est ébranlé par le regard de Jésus. C'est une grâce extraordinaire que cette conversion subite. J'ai déjà fait une émission sur les grandes conversions subites du siècle dernier et de ce siècle, comme celle de Claudel, au pied d'un pilier dans l'église Notre-Dame à Paris, ou Alphonse Ratisbonne, ce juif qui se convertit, un banquier qui se convertit à Rome devant une apparition de la Vierge qui, dans un éclair, possède toutes les connaissances de la foi chrétienne, lui qui n'en connaissait rien, et qui devient prêtre et fonde les pères et les sœurs de Notre-Dame de Sion, et qui fait un homme absolument admirable, et quantité d'autres. Mais alors Dismas a été ce premier grand converti subi. Il se tourne vers son compagnon. Il essaie de convertir l'autre voleur. Il veut lui faire craindre les jugements de Dieu. Il veut l'amener à... C'est un début, ça, de l'amour de Dieu. Craindre un peu de blesser Dieu. Alors, il lui dit, pour nous, c'est normal que nous souffrions, c'est juste. Nos crimes nous ont valu le supplice que nous subissons. Mais celui-ci, Jésus, n'a fait aucun mal. Et alors il demande à Jésus, cette parole qu'on connaît bien, hein? Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. C'est extraordinaire. Il y a des fresques que j'ai déjà vues dans des anciennes églises en Europe. Vous savez qu'on fait beaucoup de recherches dans les églises et on aime beaucoup enlever souvent des recouvrements de chaux blanches qu'on a mis par-dessus des fresques qu'on jugeait pas belles parce qu'elles étaient un peu trop naïves. Elles étaient pas aussi belles, disons, que des grandes fresques, des grands peintres de la Renaissance. Elles dataient du 12e siècle, elles étaient romanes, donc un peu naïves, mais souvent plus belles même, à mon avis, parce que j'aime beaucoup l'art roman, l'art du 12e siècle. Et alors, je me souviens d'en avoir vu une qui m'avait émerveillé. Elle était toute sur la hauteur, très grande, très naïve. Et en haut, on voyait Dieu le Père assis sur son trône, serrant contre son cœur Dismas, ce saint Dismas, le bon larron, et qui était monté au ciel le vendredi saint. Il était le premier arrivé au ciel, parce qu'il n'y avait personne au ciel, selon l'ancienne croyance. On croyait qu'il fallait que Jésus meure sur la croix pour ouvrir les portes du ciel, pour que, enfin, le Père ouvre aussi son cœur et accepte de recevoir des limbes tous ceux qui attendaient ce grand jour où les portes du ciel s'ouvriraient. Et alors, en bas de la fresque, où le Père et Dismas regardent, ils regardent en bas, et on voit Jésus qui monte, lui, des enfers, comme on dit, et il entraîne avec lui qui? Ben, Adam et Ève, et puis Abraham, et puis Moïse, et David, et quantité d'autres grands personnages de l'Ancien Testament. Et j'imagine qu'il amène aussi avec lui ses grands-parents, Joachim et Anne, qui sont morts, et puis probablement Joseph, qui est mort aussi, et puis... Tout ça est très, très sympathique dans une vision naïve de l'interprétation de peut-être grand mystère de la rédemption. On lit d'ailleurs dans des évangiles apocryphes des choses très amusantes que je vous lis parce que ça concerne un peu la Sainte Famille et nous allons passer ensuite à la Sainte Vierge. Dans un évangile apocryphe, on dit 30 ans plus tôt, au moment de la fuite en Égypte, la Sainte Famille aurait été assaillie par deux voleurs, dont l'un, nommé Dismas, justement, se serait fait son protecteur. Eh oui, Dismas, déjà, il avait bon cœur, c'était un bon voleur. Il a protégé la Sainte Famille durant sa fuite en Égypte, raconte cet évangile apocryphe qui raconte n'importe quoi, hein. Et on dit aussi dans ce texte, l'enfant Dieu lui aurait prédit alors le drame du calvaire. Alors évidemment, quoi qu'il en soit des légendes du Moyen-Âge à ce sujet, mais il faut noter que les églises grecques et latines ont honoré publiquement celui que notre Seigneur a prononcé dire canonisé du haut de la croix, le premier canonisé, comme je vous disais tout à l'heure. Et dans l'église latine, dans le martyrologe romain, qui est la liste, je vous le rappelle, de tous les saints, on les appelle martyrologes, parce qu'au début, c'était les martyrs qu'on mettait. Eh bien, le martyrologe romain, dans l'Église latine, a mentionné le bon larron au 25 mars. Ce serait un peu long à vous expliquer. C'est dans la période où sont groupés divers souvenirs ou symboles de la passion de Jésus, parce qu'on a cru pendant les premiers siècles, je ne sais trop d'où vient cette tradition, que Jésus serait mort le 25 mars. Et puis, finalement... on a établi, après plusieurs siècles, la fête de l'Annonciation à ce moment-là, parce que l'Annonciation se fêtait plutôt au mois de décembre, et on la fêtait en même temps presque la nativité ou la naissance de Jésus, parce que pour eux c'était indissociable. L'incarnation, je vous le dirai tout à l'heure, avait une telle importance. Ce moment où l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle est enceinte, qu'elle devient enceinte, que c'était là-dessus qu'on insistait. Beaucoup plus que sur la naissance. Hein? C'est assez curieux. Alors, je passe donc à l'annonciation de la Sainte Vierge Marie et donc conception de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc aujourd'hui le 25 mars. Et dans votre prion en église quotidien, j'espère que vous avez ça, la plupart d'entre vous chez vous, je dispose le numéro de ce mois-ci, qui coûte quelques sous à peine, presque 200 pages. C'est très intéressant d'avoir ça chez soi, même si on ne va pas à la messe tous les jours parce qu'on ne peut pas, on peut méditer ces belles prières. Alors au début de la messe, aujourd'hui, un petit texte où on dit « L'Esprit du Seigneur prend possession de l'humble Vierge Marie ». Il suscite en elle la parole même de Dieu. Le verbe, c'est un langage très, très obscur pour les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui connaissent pas ce vocabulaire. Suscite en elle la parole avec un grand P. Hein. La parole, c'est le Fils éternel de Dieu, qui est la parole éternelle du Père. Le Père énonçant de toute éternité une parole qui est son Fils de toute éternité, qui est l'objet de tout son amour. C'est pour ça qu'on appelle le verbe, verbalisé. Et quand on dit verbalisé, ça veut dire parler. Donc c'est le même mot, au fond. Alors, en elle, elle a, ce jour-là, 9 mois avant Noël, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, il est là. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et éternel jaillissement de vie, hein, qui opère, dit le texte ici, qui opère encore journellement dans le cœur des chrétiens. il faut bien insister sur le fait que c'est un grand jour aujourd'hui pour nous tous. Nous avons le Christ en nous. Le Fils éternel de Dieu est en nous. La Trinité Sainte est en nous. Et nous portons le Christ. Qu'est-ce qui vient faire le Christ dans le Sainte-Marie? On le dit dans l'antienne d'ouverture de cette messe. Le Christ, en entrant dans le monde, dit, « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Faire sa volonté, c'est pas ennuyant du tout. C'est merveilleux. C'est conformer son cœur au cœur de Dieu. C'est aimer de cet amour qu'a Dieu dans son cœur, qui est l'Esprit Saint. C'est absolument bouleversant. C'est aimer en compagnie de Dieu. Dieu aime en nous. Et c'est très beau la première prière. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, voilà. Ce sont de très très belles prières très saintes qu'on entend d'une oreille souvent malheureusement distraite. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faut aller au fond des choses. Aller au fond des choses. Alors je vous lis le récit qui est dans l'évangile de Saint-Luc chapitre 1. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille. Une jeune fille. Je dédie cette émission, comme je dédie l'émission de Saint-Joseph aux jeunes de 16, 17, 18, 19 ans. Mais je pourrais dédier celle-ci aux jeunes filles de 15, 16, 17 ans. Cette petite Valérie, je sais, qui a 16 ans et qui m'écoute, qui aime beaucoup ces émissions-là, elle a 16 ans. Oui. Marie avait environ ça, 16 ans, et Joseph, 18 ans, je vous le rappelle. Vous direz, c'est bien jeune, mais mon Dieu, nos grands-parents se mariaient à cet âge-là, il n'y a pas si longtemps, au siècle dernier. Et oui. Et les jeunes juifs se mariaient à l'âge de 20 ans. À 19, 18, 17, 16 ans. Ils avaient la maturité déjà acquise, ils n'étaient pas distraits par mille choses. Ils étaient nourris de la Bible, nourris de travail, fait dans la maison, autour de la maison. Ils assistaient leurs parents dans divers travaux. Ils savaient jouer, se délasser, mais ils allaient à la synagogue, ils allaient au temple, ils entendaient des paroles dans la langue qu'ils parlaient. Ils entendaient ça, ça les nourrissait, ça les faisait mûrir. Ils n'étaient pas distraits par Jean-Marc Parent ou d'autres personnes comme ça. Bon, je m'excuse. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Enfin, je regardais ça hier pendant 5 minutes, je me désolais. Et alors donc, je relis cet évangile. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Voyez-le bien, à 18 ans. Lui. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. Et alors l'ange lui dit, « Alors, c'est très beau, s'assois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je vous dis, il faut s'appliquer à nous-mêmes ces paroles-là. Nous avons tous trouvé grâce auprès de Dieu. Tous, tous, tous. Même les prisonniers qui m'entendent et qui regrettent des crimes terribles peut-être qu'ils ont pu faire. Nous sommes tous de grands pécheurs. Nous avons tous trouvé grâce auprès de Dieu. Mais Marie n'est pas pécheresse. Elle était préservée. Donc, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. La maison de Jacob, c'est la maison d'Israël. C'est la maison du peuple de Dieu. Mais finalement, ce peuple de Dieu devient, à travers le cœur de Jésus, le peuple de la terre entière. Les Esquimaux comme les Patagons. Les gens de la terre de feu comme les gens du pôle Nord. de l'est à l'ouest, partout. Les gens qui vivent dans des grottes comme ceux qui vivent dans des palais. Les savants, les pauvres, les petits. Les gens réduits presque à l'état végétatif. Comme les prix Nobel, tous au même degré. Font partie de la maison de Dieu. Dieu nous aime tous également. D'un même amour total. Le règne de Jésus n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire? Elle a un petit doute. Puisque je suis vierge, et l'ange lui répond gentiment, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est une expression très biblique, ça, te prendra sous son ombre. C'est une expression qui vient des pays chauds, des pays où le soleil est ardent, où il faut se mettre à l'ombre pour trouver un peu de fraîcheur et de bien-être. Et on est bien sous l'ombre de Dieu parce qu'on y trouve la fraîcheur, on y trouve de l'eau fraîche, on y trouve du bien-être, on y trouve la douceur d'exister, d'être, de vivre. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle est bien sa vieillesse. Et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors d'une part, une vierge qui met un enfant au monde, et d'autre part, une femme stérile. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Rien n'est impossible à Dieu. Dites-vous bien, vous vous ennuyez à la messe, vous vous ennuyez, vous pouvez plus, c'est plus possible, vous souffrez trop, c'est trop dur. Criez vers Dieu. Il vous couvrira de son ombre. Vous aurez en vous la présence merveilleuse de Jésus, de la Trinité Sainte. Évidemment, les pères de l'Église, au début de l'Église, en voyant ces textes que je viens de vous lire, n'ont pas manqué de relever tout ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce message qui est adressé à Marie. D'abord, c'est une espèce d'ambassade, si on veut, qui vient de Dieu. Alors, c'est pas tous les jours que Dieu envoie une ambassade, comme on dit, un messager qui est choisi parmi les hautes hiérarchies des anges, c'est l'archange Saint-Gabriel. Puis d'une part, on a une jeune fille de Galilée, elle n'est même pas de Jérusalem. C'est un peu comme si elle était choisie, je ne sais pas moi, à Baie-Comeau, pour nous de Montréal, qui pensons qu'on est beaucoup plus fin à vivre à Montréal qu'à Baie-Comeau. C'est une idée qu'on se fait. Elle est de Galilée, de très, assez loin, dans la campagne, quoi. Une petite ville. Mais elle serait de race royale, pour ça qu'il parle du trône de David. Mais elle est réduite, bien qu'elle serait de race royale, à la condition d'une petite fille plutôt pauvre. Elle est vierge, elle est inconnue, elle est cachée aux yeux du monde. Et cette jeune fille, Marie, qui s'étonne de la visite qu'elle reçoit, des louanges qu'elle entend, parce que l'archange lui dit « fais des louanges hein? ». Elle est étonnée aussi des communications qui lui sont faites. Elle est moins étonnée qu'on peut penser, parce qu'elle connaît les Écritures, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ces jeunes juifs connaissaient bien, comme dans certaines familles chrétiennes aujourd'hui qui connaissent bien la Bible, où les parents lisent une page de l'Évangile ou de la Bible tous les jours à leurs enfants. Il y a un climat de prière, ça se vit de plus en plus. Hein. Il y a tout un renouveau familial de la prière. Hein. C'est très beau dans certaines familles. Et ces enfants connaissent les choses, et à cette époque, les connaissaient très bien. Très, très bien. Alors, elle ne doute pas, au fond, des promesses qui sont énoncées. Elle ne doute pas. Mais il y a des détails qui peuvent lui paraître un peu compliqués, spécialement qu'elle veut demeurer vierge, parce qu'elle a pris cette résolution de demeurer toujours vierge. Ce qui est très rare, mais c'est peut-être l'influence des Esséniens chez elle, car elle avait des courants chez les Juifs, un peu vers la virginité, ce qui s'opposait, c'était très considéré comme à part, très spécial. Et aujourd'hui, encore plus, chez nous, une jeune fille qui veut demeurer vierge et entrer chez les rédemptoristines, comme on l'a entendu lundi dernier à l'émission La joie, ça s'apprend. J'avais l'occasion de répondre au téléphone pour remplacer M. Charon, n'est-ce pas? Cette jeune fille est fort intelligente, elle est remarquable, qui désirait rentrer chez les rédemptoristines. Ça doit poser des questions dans son entourage, où on s'imagine que pour être heureux, il faut vivre une vie sexuelle à plein. Quelqu'un qui n'a pas de vie sexuelle ne peut pas être heureux, selon les concepts qu'on se fait aujourd'hui. C'est absolument étrange. Comme si c'était essentiel, absolu. Mais ce n'est pas essentiel et absolu. Ça ne l'est pas. C'est une erreur quand on dit ça. Elle a pris la Vierge, Marie, donc la résolution de demeurer toujours vierge, et elle veut savoir si les promesses extraordinaires de l'ange, là, ne vont pas nuire à sa résolution parce qu'elle est déterminée à demeurer l'épouse de Dieu selon l'Esprit en demeurant vierge, plutôt que de devenir sa mère selon la chair, comme disaient les pères de l'Église. Autrefois, les pères de l'Église, c'est les grands spécialistes là qui ont vécu dans les, disons, les 7-8 premiers siècles de l'Église. Alors, là, l'ange va la rassurer. Il convient que c'est un miracle, mais rien n'est impossible à Dieu, comme je vous ai dit. Alors, l'incomparable dignité qui va surgir là, du consentement de Marie, ça la fera pas sortir de ses intentions d'être humble et docile. Il n'y a pas de doute, elle croit qu'elle va devenir la mère de Dieu. Et on verra tout à l'heure comment tout ça va se développer. À Rencontre spirituelle aujourd'hui, les questions évidemment de l'Annonciation de la Sainte Vierge, qui reçoit cette visite étrange d'un ange. C'est pas toujours facile à croire, hein? Mais on a les preuves, finalement, à travers l'histoire, de l'authenticité de tout ça. Mais oui, tant de miracles ont été opérés à Lourdes, je vous en ai parlé si souvent. Tant de choses phénoménales. Mais simplement, la misère dans laquelle était plongée l'humanité appelle de la part de Dieu une ouverture comme ça. Une ouverture vers la lumière, hein? Du tunnel à la lumière, comme dit le titre d'une émission du dimanche, ici à 1h, du tunnel à la lumière, c'est ça qui se passe au jour de l'Annonciation, où la Vierge dit oui à la venue sur terre de celui seul qui peut nous éclairer, nous libérer, nous envahir de sa douce présence, comme il envahit Marie. Alors elle croit qu'elle va devenir mère de Dieu. Mais pas de doute. Elle croit qu'elle va demeurer vierge dans la conception et la naissance de son fils. Elle croit. Et cela ne l'empêche pas de rester dans sa condition de servante de Dieu. Elle dit d'ailleurs, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et voilà la formule de son consentement. C'est là la formule qu'elle utilise pour son assujettissement, je dirais, à la volonté de Dieu. Et on dit, mais ça juste devenir un petit sujet devant la volonté de Dieu, quelle horreur, les gens veulent être indépendants. Mais justement, c'est là qu'on trouve la liberté. Elle se trouve là, la liberté. C'est curieux à dire, hein? ça a l'air d'une absurdité. Mais les gens les plus libres que j'ai vus dans ma vie, c'est ceux qui se conformaient à la volonté de Dieu, qui sont énoncés dans ces conseils précieux qui nous sont donnés dans ce qu'on appelle les commandements de Dieu, qui sont les plus beaux conseils de bonheur. Oui, mais on ne veut plus le croire. C'est triste, on veut enfreindre tout ça. On croit que le bonheur est ailleurs que là où Dieu dit qu'il est. Alors le moment même où elle exprime son obéissance, c'est celui où le Fils de Dieu, le Verbe éternel, comme je disais tout à l'heure, s'incarne dans son sein. C'est le moment où Dieu communique à Marie sa présence féconde. La fécondité maternelle s'accomplit. Du côté de Marie, la foi seule, avec l'opération du Saint-Esprit, a part à la conception du Fils de Dieu fait homme. Et l'ouvrage se fait, évidemment, sans diviser la Trinité. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont indivisibles. Mais on attribue au Saint-Esprit l'ouvrage où paraît cet excès de la bonté, de l'amour, de la miséricorde de Dieu pour les hommes et les femmes. L'ouvrage où se fait la plus merveilleuse chose, là, par cette union immédiate et substantielle de la divinité avec un être humain. Et c'est avec une femme, ne l'oubliez pas, mesdames, oui, c'est avec une femme que cela se fait. C'est avec une femme que Dieu le fait. Avec une femme. Et comme conséquence de ce mystère de l'incarnation, hein, nous avons toute une série de faits admirables qui en découlent. Premièrement, on peut dire que l'enfant qui a été conçu, ben, c'est véritablement le Fils de Dieu, tel qu'annoncé le Verbe éternel. La seconde personne de la très sainte Trinité. Et deuxièmement, de ce même enfant est le vrai Dieu, un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Il est fils unique de Dieu, mais il est consubstantiel. C'est un mot que j'aime beaucoup, qui est un peu compliqué, mais il fait partie de la même substance, là, avec le Père et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et troisièmement, mais cet enfant, petit enfant, a deux natures parfaites. Il a la nature divine et la nature humaine en une seule personne. Une seule personne. Il y a deux natures. Et en Jésus-Christ, quatrièmement, en Jésus-Christ, tout ce qui appartient, oui, tout ce qui appartient à la personne de Jésus-Christ est unique. Tout ce qui appartient à la nature, pendant c'est double, nature humaine, nature divine. Ainsi, il y a en lui deux entendements, deux volontés, deux opérations, puis malgré cette distinction, ce qui est de Dieu est attribué à l'homme, et ce qui est de l'homme est attribué à Dieu, à cause de l'unité de la personne, hein, une seule personne. C'est un peu compliqué. Je ne veux pas m'étendre outre mesure là-dessus, c'est tout le problème de la Trinité. Mais j'aime mieux le dire un peu, que certains d'entre vous les saisissent, et en vivent. Car c'est au cœur de notre foi. Et enfin, cinquièmement, mais la Sainte Vierge, là, elle est véritablement et proprement Mère de Dieu. C'est le titre qu'on lui a donné. Ça ne veut pas dire qu'elle est une déesse. Hein. Des musulmans qui croient parfois, quand on dit ça, qu'elle est une déesse et qu'on croit ça. Mais non, mes chers frères musulmans, mais non. Elle est Mère de Dieu, comme quelqu'un qui est mère du Premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'elle est Premier ministre. Elle est simplement mère. Elle peut être mère du plus grand compositeur de musique de la Terre et ne pas savoir où est le Do sur un piano. Et oui. Marie a pu se permettre de dire, d'ailleurs, dans le Magnificat, là, qu'on chante encore, le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Une petite fille de rien du tout, apparemment, aux yeux des autres, perdue en Galilée, fait d'elle de grandes choses. C'est ce dont nous la félicitons en cette fête. Nous l'acclamons, d'ailleurs, nous-mêmes, tout ce que nous sommes, nous le tenons de Dieu. Pensez aux neurones que vous avez dans votre cerveau. C'est pas votre père ou votre mère qui les a faits, je vous l'ai souvent dit, mais je le rappelle. On a tendance à l'oublier. Souvent, on se dit, ah, je suis tellement plus intelligent que ma voisine ou mon voisin. Mon fils est tellement plus brillant que tous les autres. Ce n'est pas le cas avec mon pauvre fils que j'avais adopté, mais ça n'a pas d'importance, car ce que nous avons vient de Dieu. On n'a pas à s'enorgueillir. Les yeux qu'on a, les mains qu'on a, la mémoire, ça vient des neurones, ça, c'est cette immense machine, cet ordinateur qu'on a dans la tête. C'est Dieu qui a patenté ça, hein? C'est signé par Dieu. Qui pourrait avoir imaginé de telles choses? La nature, quand on dit, mais c'est la nature qui fait ça, la nature, c'est quoi? Une grande femme qui circule dans les bois? Une espèce de immense esprit qui circule dans l'espace, qui serait pas Dieu, qui serait la nature. Ça n'explique rien, la nature. En tout cas, on peut dire que cette fête a un double caractère. Elle est à la fois une fête en l'honneur de Marie, d'où le titre qui lui a été donné plus communément, et qui lui est resté, jusqu'à tout récemment, de cette fête, c'est l'Annonciation de la Sainte Vierge, alors qu'aujourd'hui, bien dans le prion en Église, c'est bien écrit « Annonciation du Seigneur ». Je vous le rappelle, ceux qui sont arrivés en retard à l'émission, c'est pour centrer davantage toute la liturgie sur le Christ. Même les fêtes de Marie sont en l'honneur finalement du Christ. Et toutes les messes, même les jours de la fête de Marie ou du Christ, les messes s'adressent à Dieu notre Père. Toute l'essence même de la prière catholique s'adresse à Dieu notre Père. En union avec son Fils Jésus-Christ. Dans l'unité de l'Esprit Saint. C'est toujours comme ça que se terminent les prières. Toujours, sauf juste avant la communion. J'en profite pour rappeler aux prêtres que plusieurs laïcs ou plusieurs personnes, quand nous assistons à la messe, nous souhaitons ardemment que, après le Pater, après le Notre Père, il y a la prière « Délivre-nous du mal », qui est une paraphrase des derniers mots du Notre Père, et qui se termine avec « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, tout ça s'adresse à Dieu notre Père ». Et là, nous cessons de parler à Dieu notre Père, comme j'inviterai tous les prêtres qui m'écoutent à garder le silence quelques secondes, ne serait-ce que 4-5 secondes, de se recueillir dans une intimité qui n'est plus l'acclamation, mais qui est la tendresse à l'égard de l'hostie. La principale hostie, l'hostie qu'on dit du prêtre et qui est sur l'autel. Or que je souhaiterais donc qu'ils la prennent dans leurs mains consacrées. Et que la soulevant légèrement comme s'ils la caressaient. Qu'on nous puissions la voir sans qu'ils aient vraiment l'intention de nous la montrer. Ce n'est pas une ostension, c'est une caresse. Et qu'ils parlent à Jésus en lui disant, Seigneur, tout bas, mais avec le micro nous l'entendrons, Seigneur, Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, comme dans le sein de Marie, pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et là, il déposerait l'hostie. Et des deux mains qui se lèvent, il dirait que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous et avec votre esprit. Puis on continue, au nom de Dieu, à parler à Jésus. Et Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, etc. Au Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps, ton sang, etc. Ce serait tellement plus beau, et ça nous permettrait de voir que nos prêtres ont une grande tendresse pour la présence sacrée de Jésus dans cette hostie sainte. Et que le corps de Jésus vivant, ils nous donneront. Ce corps vivant qui a vécu dans le corps de Marie, qui a été façonné par Marie. Extraordinaire. Extraordinaire quand on y pense. Alors cette fête, c'est une fête de notre Seigneur, conception de Jésus-Christ. Cette fête commémore l'anniversaire du jour où il s'est fait homme, le 25 mars. 9 mois, je le rappelle, avant le 25 décembre. Alors, il y a eu des variantes pour la fixation du jour. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Il y a une ancienne tradition qui était reçue au temps Saint-Augustin qui indiquait que que Jésus-Christ avait été conçu le 25 mars, à peu près dans le temps de Saint-Augustin, voyez-vous. Et l'Église n'a rien trouvé qui pour empêcher d'accepter cette tradition, quand c'était question d'établir cette fête, que ce soit là, dans l'Église d'Orient ou dans l'Église d'Occident. C'était une seule Église dans ce temps-là, nous n'étions pas divisés, grâce à Dieu. Alors, j'espère que nous serons réunis bientôt. Alors, ce qui m'est arrivé, qu'après le 5e siècle, qu'on a établi vraiment cette date-là. La plupart des pères de l'Église, antérieurs au 5e siècle, ne faisaient pas de distinction, d'ailleurs, dans leurs sermons, entre, je vous l'avais dit tout à l'heure, entre l'incarnation du Verbe, ou la conception de Jésus-Christ, ou sa naissance. C'était tout un, ça. Tout était rassemblé au moment où l'ange annonce à Marie. On considère ça presque comme sa naissance. Mais sa naissance qui surgit 9 mois plus tard. Alors c'est plutôt l'incarnation que la naissance qu'ils exposent dans leur discours sur la fête de Noël même. Et même à l'épiphanie, ils reviennent toujours, ces pères de l'Église, à Gabriel qui annonce. C'est merveilleux, hein? À ce moment où tant d'avortements sont pratiqués, même par des catholiques. Où l'on ne considère plus la vie humaine dans toute son étendue, dans toute sa grandeur et dans toute sa beauté. D'ailleurs, les gens voyaient dans la conception de Jésus-Christ le principe, si vous voulez, l'origine même de la fête de sa naissance à Noël. Il n'y avait pas de décret de concile qui a permis que se forme là, un culte religieux pour le jour de la conception de Jésus-Christ. C'était observé partout dans le monde. Bien oui, partout dans le monde. C'est donc vers la fin du 5e siècle, tant dans l'Église qu'on appelle l'Église grecque, que dans l'Église que l'on appelle l'Église latine, que ça s'est opéré, tout ça. C'est fantastique quand on y pense. Hein? Alors songeons. Songeons à la grandeur de ce jour où l'on dit des paroles sublimes à la messe aujourd'hui, mais sublimes. De grande beauté. Je ne cesserai jamais de vous dire combien nos messes sont belles. Ah là là, la préface aujourd'hui, c'est superbe. La préface, vous savez, c'est le chant, là, je le dis pour les plus jeunes. Là, des fois, il y a des prêtres qui chantent ça. Vraiment, à dire le prêtre aujourd'hui, tous les prêtres, d'un bout à l'autre de la terre, hein, c'est sur toute la planète, hein. Dans les montagnes comme dans les vallées, dans les pays les plus secrets, les plus étranges et les plus mystérieux, comme dans les villes, comme à New York, à Paris ou à Montréal, partout. Il y a des prêtres qui aujourd'hui vont chanter ceci ou le dire devant le monde. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, ô Père, de t'offrir notre action de grâce. Toujours. Et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voyez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça synthétise tout ce qu'est la messe, dont je vous parlerai longuement le jeudi saint, dans moins de 2 semaines. Et la préface continue. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée. Et qu'à l'ombre de l'Esprit-Saint, je vous expliquais tout à l'heure ce que voulait dire l'ombre, qu'à l'ombre de l'Esprit-Saint, elle accueille par la foi. Oui, elle l'accueille par la foi. Et nous aussi, nous pouvons l'accueillir par la foi. Celui qui croit en moi, dit Jésus, mon Père et moi, et l'Esprit-Saint, nous viendrons en lui. Nous y ferons notre demeure. Nous sommes donc des porte-Christ. Des portes Trinité, des tabernacles de la Trinité, et partout où nous allons, la Trinité est là en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Jamais. La préface continue en disant, lui, qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Lui, qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Est-ce que nous portons Dieu avec tendresse dans notre chair, dans notre âme, dans notre cœur. La préface ajoute, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Bien oui, la
comblé. Il a dépassé tout ce qu'attendaient tous les peuples de la terre. Il a révélé, quoi, que nous avons un Père, qui a un cœur de mère, qui est Dieu, notre Père, auquel nous offrons la messe, nous offrons nos journées, nous offrons tout notre être. Nous sommes aspirés par son amour et nous sommes bouleversés par cet amour et nous voulons le connaître davantage et vivre pour lui et être en lui, par lui, pour lui, comme une hostie sainte. Alors la préface se termine, c'est par lui que les anges assemblés devant toi, ô Père, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et c'est très beau, vous savez. Avez-vous déjà remarqué comme c'est beau ce chant du Sanctus, comme on l'appelait en latin? C'est extraordinaire. C'est vraiment tellement beau. On n'y pense plus. Saint, 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 le Seigneur, c'est le Père, hein? Dieu de l'univers, c'est la Trinité. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hein? Oh, si on criait ça dans nos églises, peut-être que nos jeunes se réveilleraient et diraient, hé là là, ils sont fous, mais c'est merveilleux, au lieu de dire, mon Dieu, que c'est plate. Mais aussi on dit, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Mais c'est ennuyant comme la pluie. Ça n'a pas de sens, est-ce qu'on y croit? Vous direz, ben, je ne peux pas crier si fort, les voisins vont se retourner vers moi. Ils vont me prendre pour une folle, ils vont me prendre pour un fou. C'est ça le problème, où en sommes-nous? Il faudrait peut-être imiter les Allemands. Êtes-vous déjà allé à la messe des Allemands? C'est extraordinaire. Ils chantent. Peut-être parce qu'ils sont habitués de chanter avec le boc de bière et puis dans leur merveilleux endroit où ils se rencontrent et chantent et prennent... J'espère qu'ils ne se saoulent pas la gueule quand même, mais j'espère qu'ils boivent joyeusement de la bonne bière et qu'ils chantent leur joie d'être ensemble. Alors peut-être à l'église, ça les porte à chanter davantage, mais j'ai toujours été ému en Allemagne. Mais les voir droit, chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, c'est une expression araméenne ou juive, je ne sais plus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais c'est Jésus qui vient au nom du Seigneur aujourd'hui dans le cœur de Marie, dans son sein, dans son sein. Et tout à l'heure, à midi, nous allons réciter l'Angélus. Et savez-vous que cet Angélus est une prière typique du jour de l'Annonciation? Nous sommes absorbés par des soucis terrestres. Et c'est pas une mauvaise chose que la cloche sonne, hein? Que nous soyons avertis, que nous ne vivons pas seulement de pain puis de petits bonheurs passagers, ou même de grands bonheurs passagers. Rien de plus utile finalement que la cloche là, qui sonne trois fois trois coups, et ensuite la grande volée. On nous rappelle trois fois par jour que nous sommes créés pour une vie meilleure, que nous sommes créés pour porter comme Marie Jésus dans notre sein, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre volonté, dans tout notre être. Ça s'est fait merveilleusement sous l'action de l'Esprit-Saint. Mais ça se fait toujours par l'action de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Rappelons-nous ce salut de l'ange Gabriel à Marie. Et c'est ça l'Angélus. Tel que nous le récitons actuellement, cet Angélus est apparu pour la première fois dans un office publié à Rome, il n'y a pas tellement longtemps, en 1572. Ça fait un peu plus de 400 ans, c'est tout. Mais ça résulte de toute une évolution qui a commencé au XIe siècle par un Angélus du soir. Puis ensuite, un Angélus du matin, puis enfin, on va unifier ça avec un Angélus du midi qui rappelle la passion de notre Seigneur. Alors le mot Angélus, évidemment ça veut dire ange, signifie simplement c'est le rappel du mystère de l'incarnation qu'on célèbre aujourd'hui par un tintement de cloche. C'est suivi d'une prière à Marie. Vous l'entendrez tout à l'heure, dans quelques minutes. En somme, l'Angélus, c'est une très, très touchante invention, une très belle invention, qui vient de la profonde foi de nos ancêtres, cette foi vivante, pour cet événement qu'on célèbre aujourd'hui, qui marque la plus importante date, à mon avis, de l'histoire humaine. C'est l'apparition de Dieu fait homme sur la terre. C'est une grande fête aujourd'hui. Ça témoigne, cette prière, d'une vénération filiale aussi pour Marie, qui est la mère de Dieu, qui est notre mère. Oui, elle est la mère de Dieu et notre mère. On dit qu'elle est vierge et ça fatigue certaines personnes. Mais grand Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait du modèle sexuel généralisé, presque absolu, une condition de la véritable humanité. On préconise n'importe quelle pratique sexuelle, d'ailleurs. Mais mon Dieu, quelle est la vision d'amour au sein de la sexualité que l'on donne à nos enfants ? Fais ce que tu veux, qu'on leur dit. Satisfais tes désirs comme ils viennent. Évite toute frustration, tu as droit à la relation sexuelle. Tes parents, tes éducateurs n'ont rien à dire. Ce qui en résultera sera pris en compte par la société. Oui, oui. Fais ce que tu veux, comme tu le veux, tout est possible grâce aux préservatifs qu'on leur dit. Invraisemblable. Ça se situe à rebours d'une éducation au travail psychique. Il faut faire un travail psychique sur soi-même. Il faut avoir une certaine maîtrise de ses pulsions. Il faut savoir établir un équilibre entre le désir et une loi qui est une loi divine, mais c'est un conseil de bonheur. Le sixième et le neuvième commandement sont des conseils de bonheur. En somme, la fidélité puis la chasteté sont des modèles aussi vigoureux, aussi opérants et structurants que ceux qu'on propose aujourd'hui par cette espèce de morale dominante, qui sont, à mon avis, des morales qui détruisent et à l'enchaîne. Que de gens sont enchaînés, ne peuvent plus vivre par eux-mêmes. Ils poutent toujours qu'ils aient une nouvelle femme objet dans leur lit. Je dis bien une femme objet. Et c'est tragique pour les femmes. Tragique. C'est terrible. En somme, l'Église serait-elle encore l'Église si elle n'assumait pas sa différence? Si elle renonçait à parler de l'amour véritable? La critique du discours de certains groupes critique l'Église à tort et à travers. Il reste cependant que vraiment, il faut comprendre aussi la misère humaine, et l'Église la comprend dans les choses concrètes, les rapports entre un pénitent et un prêtre. Mais l'Église ne peut pas changer son enseignement profond, qui est un enseignement idéaliste, mais qui est un enseignement plein de grandeur. Et nous croyons que la virginité de Marie est un appel à la pratique d'une chasteté sainte et saine, et de vivre aussi comme son mari Joseph. Ici se termine cette émission sur l'Annonciation du Seigneur à la Vierge.